Chapitre 4. Kez était assis dans le loft, les dermatrotes collés sur le front, à contempler les grains de poussière qui dansaient dans la lumière diffuse du soleil filtrant à travers la verrière. Il pensait « Les cow-boys ne sont pas branchés Simstim. C'est essentiellement un joujou de viandard. » Il savait que les trottes qu'il utilisait et la petite tiare de plastique qui pendouillait d'une console du Simstim était fondamentalement identique, et que la matrice du cyberspace était en vérité une hyper-simplification du sensorium humain. Du moins, en termes de présentation. Mais il voyait le Simstim, proprement dit, comme une multiplication gratuite des capteurs de la chair. La version commerciale était filtrée, bien entendu, de sorte que si Tali Hicham se chopait une migraine en cours de segment, vous ne la ressentiez pas. L'écran lança un bip d'alerte de 2 secondes. Le nouvel interrupteur était raccordé à son Sendai par un fin ruban de fibre optique. Et un, et deux, et le cyberspace glissa vers l'existence, suscité des 4 points cardinaux. En douceur, songea-t-il, mais pas suffisamment encore. Faudra travailler ça. Puis il bascula le nouvel inter. Secousse abrupte de la pénétration dans une autre chair. Matrice effacée. Déferlement de sons et de couleurs. Elle avançait dans une rue bondée, dépassant les étals de vendeurs de programmes ou rabais, prix inscrits au feutre sur des feuilles de plastique, fragments de musique issus d'innombrables haut-parleurs. Odeur d'urine, monomère libre, parfum, pâté de krill en train de frire. Durant quelques secondes d'effroi, il lutta désespérément pour contrôler son corps. Puis il se contraignit à la passivité, devint le passager derrière ses yeux. Les verres ne semblaient absolument pas filtrer la lumière solaire. Il se demanda si les amplificateurs intégrés ne compensaient pas automatiquement. Un afficheur alphanumérique bleu clignotait l'heure, dans le coin inférieur gauche de sa vision périphérique. De la frime, songea-t-il. Son langage corporel était désorientant, son style étranger. Elle semblait perpétuellement à 2 doigts de percuter quelqu'un, mais les gens se fondaient hors de son passage, se coulaient sur le côté, lui laissaient la place. « Comment va, Kez ?» Il entendit les mots et la sentit les formuler. Elle glissa une main dans son blouson, entoura d'un doigt un mamelon sous la soie tiède. La sensation lui fit retenir son souffle. Elle rit. Mais la liaison était à sens unique. Il n'avait aucun moyen de répondre. De part et de maison plus loin, elle sinuait dans les faubourgs de Memory Lane. Kez essaya de lui faire tourner les yeux vers des repères susceptibles de le guider. Il commençait à trouver irritante la passivité de la situation. La transition au cyberspace, lorsqu'il pressa l'inter, fut instantanée. Il se laissa glisser au bas d'un mur de glace primitif qui appartenait à la bibliothèque municipale de New York, y comptant automatiquement les fenêtres potentielles, bascule et retour au sensorium de la fille, l'écoulement sinueux de ses muscles, sens acéré et vif. Il se surprit à s'interroger sur l'esprit avec lequel il partageait ses sensations. Que savait-il d'elle? Qu'elle était une professionnelle comme lui? Qu'elle disait que son être, comme le sien, était l'objet avec lequel elle gagnait sa vie. Il savait comment elle se mouvait contre lui, comment elle s'était frottée contre lui avant, à son réveil, savait leur grognement mutuel d'unité lorsqu'il l'avait pénétrée, et savait qu'elle aimait son café noir après. Sa destination était l'un de ces douteux complexes de loca-logiciel qui s'alignaient sur Memory Lane. Régnait là un calme feutré. Des cabines longeaient une allée centrale. Clientèle jeune, majorité d'ados. Tous semblaient avoir une broche en carbone implantée derrière l'oreille gauche, mais son regard ne s'y attardait pas. Les comptoirs en face des cabines présentaient des centaines de plaques de micro-logiciels, anguleux éclats de silicone colorés, posés sur des carrés de carton noir et montés sur des bulles oblongues et transparentes. Molly gagna la 7e cabine le long du mur sud. Derrière le comptoir, un garçon à la tête rasée regardait dans le vide une douzaine d'aiguilles de micro-gicielles saillant de la broche derrière son oreille. « Larry, t'es là, mec ?» Elle se positionna juste devant lui. Les yeux du garçon accommodèrent. Il se redressa sur sa chaise et d'un ongle de pouce crasseux sortit de la broche une écharde magenta. « Hé, Larry !»« Molly » acquiesça-t-il. « J'ai un boulot pour quelques-uns de tes potes, Larry. » Larry sortit de la poche de sa chemise sport une boîte plate en plastique qu'il ouvrit d'une pichenette pour y glisser le micro-giciel à côté d'une douzaine d'autres. Sa main hésita, puis choisit une puce noire brillant, légèrement plus longue que la moyenne, qu'il inséra doucement dans son crâne. Ses paupières s'étrécirent. « Molly a trouvé un cavalier, dit-il, et Larry aime pas ça. « Hé, fit-elle, je savais pas que t'étais si perceptif. Tu m'impressionnes. Ça doit coûter un paquet, une telle réceptivité. » « Je vous connais, ma petite dame ?» Le regard vide était revenu. « On désire acheter un logiciel en particulier ?»« Je cherche quelque chose sur les modernes. » « T'as un cavalier, Molly. C'est lui qui le dit. » Petite tape sur les chars de noir. « Quelqu'un d'autre se sert de tes yeux. » « Mon partenaire. » « Dis à ton partenaire de s'en aller. » « J'ai trouvé un truc pour les Panthers modernes, Larry. » « De quoi qu'on parle, ma petite dame ?»« Qu'est-ce, tu dégages, » dit-elle. Et il pressa l'interrupteur. Retour immédiat à la matrice. Impression fantôme du complexe logiciel qui demeure en suspension quelques secondes dans le calme bruissant du cyberspace. « Panthers modernes, » dit-il à l'Osaka, en ôtant les trodes. « 5 minutes, pile. »« Prêt, » dit l'ordinateur. Ce n'était pas un nom qu'il connaissait, un truc nouveau, un mouvement sans doute apparu durant son séjour à Chiba. Les modes balayaient la jeunesse de la Conurb à la vitesse de la lumière. Des subcultures entières pouvaient jaillir du jour au lendemain, prospérer pendant 3 mois, puis s'évanouir totalement. « Go !» Le Osaka avait pris contact avec sa batterie de librairies, journaux et banques d'informations. Le résumé commença par un long plan fixe sur une image couleur que Keyes supposa d'abord être une espèce de collage. Un visage d'enfant découpé sur une autre image et collé sur la photo d'un mur couvert de graffitis. Yeux sombres, replis et piquantiques, manifestement dus à la chirurgie esthétique. Semi-sauvage d'acné sur les joues étroites et pâles. Le Osaka relâcha l'arrêt sur image. Le garçon bougea, glissant avec la grâce sinistre d'un mime qui joue les prédateurs de la jungle. Son corps était presque invisible, motif abstrait évoquant approximativement le fond de briques maculées qui glissait en douceur sur son collant ajusté, polycarbonate mimétique. Enchaînement sur le docteur Virginia Rambali, sociologue, Université de New York. Nom, diplôme, curriculum, pulsant en travers de l'écran en alphanumérique rose. Compte tenu de leur penchant pour ces actes gratuits de violence surréelle, disait quelqu'un, il se peut que nos spectateurs aient des difficultés à saisir pourquoi vous persistez à considérer que ce phénomène ne constitue pas une forme de terrorisme. Sourire du docteur Rambali. Il y a toujours un moment où le terroriste cesse de manipuler la gestalte des médias. Un point où l'escalade de la violence peut fort bien se poursuivre, mais au-delà duquel, le terroriste est devenu symptomatique de la gestalte des médias en soi. Le terrorisme, tel que nous l'entendons d'ordinaire, est bêtement relié à ceci. Les Panthers modernes diffèrent des autres terroristes précisément par le degré de leur timidité, de leur conscience de la mesure avec laquelle les médias séparent l'acte de terrorisme de l'intention sociopolitique initiale. « Saute !» dit Keyes. Keyes rencontra son premier moderne 2 jours après avoir visionné le topo de l'Osaka. Les modernes étaient décidément la version contemporaine des grands savants du temps de ses 20 ans. Il y avait comme un spectre d'ADN adolescent à l'œuvre dans la conurbe, un truc qui transportait les préceptes codés de diverses subcultures à brève durée de vie, et les répliquait à intervalles aléatoires. Les Panthers modernes étaient une variante biogicielle des savants. Si la technologie avait été disponible à l'époque, tous les grands savants auraient porté des connecteurs bourrés de microgiciels. C'était le style qui comptait, et le style restait le même. Les modernes étaient des mercenaires, des rigolos, des techno-fétichistes nihilistes. Celui qui se présenta à la porte du loft avec une boîte de disquettes du finnois était un garçon à la voix douce du nom d'Angelo. Son visage n'était qu'un greffon de collagène et de cartilage de squale en polysaccharide, aussi lisse que hideux. L'un des exemples les plus affreux de chirurgie élective qu'il ait été donné à Caise de contempler. Lorsqu'Angelo sourit, révélant les canines effilées comme des rasoirs de quelques fauves, Caise fut réellement soulagé. Vulgaire transplant de racines dentaires, ça, il avait déjà vu. « Te laisse pas mettre sur la touche par ces petits connards, » dit Molly. Caise acquiesça, absorbé dans les structures de la glace Senso Rezzo. Ça y était. Voilà ce qu'il était. Voilà qui il était. Quel était son être. Il en oubliait de manger. Molly lui laissait des cartons de riz et des barquettes de sushi sur le coin de la longue table. Il y avait des moments où il répugnait même à devoir abandonner la console pour utiliser le WC chimique qu'ils avaient installé dans un coin du loft. Des cristaux de glace se reformaient sans cesse à mesure qu'ils sondaient les failles éventuelles, esquivaient les pièges les plus évidents et traçaient l'itinéraire qu'il allait emprunter à travers les glaces du Senso Rezzo. C'était de la bonne glace, une glace superbe. Ses structures étincelaient tandis qu'il reposait, le bras passé sous les épaules de Molly, à contempler l'aube rouge à travers le treillis d'acier de la verrière. Son dédale de pixels arc-en-ciel était la première chose qu'il apercevait à son réveil. Il filait droit à la console sans même prendre la peine de s'habiller et se branchait. Il tranchait, coupait, bossait, il perdait le fil des jours. Et parfois, tombant de sommeil, surtout lorsque Molly était sortie pour l'une de ses virées de reconnaissance avec la petite troupe de modernes dont elle avait loué les services, les images de Chiba revenait l'inonder. Visage et néon de Ninsei. Une fois, il s'éveilla d'un rêve confus de Linda Lee, incapable de se rappeler qui elle était ou ce qu'elle avait jamais pu signifier pour lui. Lorsque le souvenir revint, il se rebrancha Fissa et travailla 9 heures d'affilée. Tranché dans la glace de Senso Rezzo lui prit au total 9 jours. « J'avais dit une semaine !» remarqua Armitage, incapable de dissimuler toutefois sa satisfaction lorsque Caise lui présenta le plan de sa passe. « Vous en avez pris à votre aise. »« Connerie !» fit Caise, en fixant l'écran avec le sourire. « C'est du bon boulot, Armitage. »« Oui, reconnut ce dernier, mais que ça ne vous monte pas à la tête. Comparé à ce que vous allez affronter au bout de la route, c'est du jeu d'arcade. » « Meilleur chiffre, Mercha !» murmura le relais des panthères modernes. Sa voix était une modulation de friture dans le casque de Caise. « Atlanta, couvé, ça passe. »« T'y vas, vu ?» La voix de Molly était légèrement plus audible. « Entendre, c'est obéir. » Les modernes utilisaient une parabole bricolée en grillage à lapin, installée dans le New Jersey, pour balancer le signal brouillé de leur liaison sur un satellite des fils du Christ-Roi en orbite géostationnaire au-dessus de Manhattan. Ils avaient décidé de considérer toute l'opération comme une espèce de plaisanterie personnelle élaborée, et leur choix de satellite de communication semblait avoir été délibéré. Les signaux de Molly étaient expédiés par un parapluie d'1 mètre de diamètre collée à l'époxy sur le toit d'une tour bancaire de verre noir presque aussi haute que le gratte-ciel de Senso Rezzo. Atlanta. Le code de reconnaissance était simple. D'Atlanta à Boston, à Chicago et Denver, 5 minutes pour chaque ville. Si quelqu'un parvenait à intercepter le signal de Molly, le décrypter, synthétiser sa voix, le code avertirait les modernes. Si elle demeurait dans l'immeuble plus de 20 minutes, il était hautement improbable qu'elle en ressorte jamais. Case avala le fond de son café, installa les trodes et se gratta la poitrine sous le t-shirt noir. Il n'avait qu'une vague idée de ce qu'envisageaient les Panthers modernes comme diversion pour les équipes de sécurité du Senso Rezzo. Son boulot était de s'assurer que le programme d'intrusion qu'il avait écrit se brancherait sur le Senso Rezzo dès que Molly en aurait besoin. Il observa le compte à rebours au coin de l'écran. 2, 1. Il se brancha et lança son programme. « Connecté !» halta leur liaison, dont la voix était le seul son audible pour Case, tandis qu'il plongeait à travers les strates éclatantes de la glace de Senso Rezzo. « Bon. Contrôle avec Molly. Contact sur le système. Bascule dans son sensorium. » Le brouilleur altérait légèrement l'entrée visuelle. Elle se tenait devant un mur miroir pailleté d'or dans le grand hall blanc de l'édifice, mâchant de la gomme, apparemment fasciné par son propre reflet. Mis à part l'énorme paire de lunettes de soleil pour dissimuler ses implants miroirs, elle parvenait à se fondre remarquablement bien dans le décor. Une touriste comme les autres, quêtant, avec espoir, un regard de Tali Ishman. Elle portait un imper de plastique rose, un corsage en filet blanc, un large pantalon blanc aussi, d'une coupe qui avait été à la mode à Tokyo l'année précédente. Elle souriait, les rides idiots, en faisant des bulles avec sa gomme. Case avait envie de rigoler. Il pouvait sentir le ruban du micropore qu'elle avait en travers de la cage thoracique, sentir les petits boîtiers plats plaqués en dessous, la radio, le simstim et le brouilleur. Le laryngophone, collé à son cou, ressemblait autant que possible à un dermadisque analgésique. Ses mains, fourrées dans les poches de l'imper rose, exécutaient des flexions systématiques, dans un enchaînement d'exercices de tension-relaxation. Il lui fallut plusieurs secondes pour comprendre que la sensation particulière au bout des doigts était causée par les lames quand elles sortaient partiellement avant de se rétracter. Il se débrancha. Le programme avait atteint la 5e porte. Il regarda son brise-glace clignoter. Éclat stroboscopique devant lui, tout juste conscient du mouvement de ses mains qui pianotaient sur le clavier pour affiner d'infimes réglages. Des plans colorés translucides défilaient comme le jeu de cartes d'un illusionniste. « Prends une carte, se dit-il, n'importe laquelle. » La porte fut franchie en un éclair. Il rit. La glace de Senso Rezzo avait accepté son entrée comme un transfert d'utilitaire provenant du complexe du consortium à Los Angeles. Il était à l'intérieur. Derrière lui, des sous-programmes viraux se détachaient, s'incrustant dans la trame du code de la porte, prêts à dévier les véritables données en provenance de Los Angeles dès leur arrivée. Il bascula de nouveau. Molly dépassait tranquillement le gigantesque comptoir de la réception au fond du hall d'entrée. 12, 1, 20, scintilla l'afficheur dans son air optique. À minuit, synchronisé avec la puce derrière l'œil de Molly, le relais dans le New Jersey avait lancé son ordre. Connecté. 9 modernes, répartis sur les 3000 kilomètres de la Conurb, avaient simultanément composé l'indicatif « Max Alert » sur le cadran de taxiphone. Chaque moderne avait prononcé quelques mots avant de raccrocher et de se fondre dans la nuit, en ôtant ses gants de chirurgien. 9 services de police et bureaux de sécurité publique digéraient l'information selon laquelle une obscure dissidence de la secte des militants intégristes chrétiens venait de revendiquer l'introduction des doses cliniques d'un agent psychoactif interdit connu sous le nom de Bleu, neuf dans le système de ventilation de la pyramide de Senso Rezzo. Le Bleu neuf, qu'en Californie on baptisait l'ange cruel, s'était révélé produire une paranoïa aiguë assortie d'un syndrome de psychose homicide chez 85% des sujets d'expérience. Case enclencha l'interrupteur tandis que son programme se revêt à travers les portes du sous-système qui contrôlait la sécurité de la librairie de recherche de Senso Rezzo. Il se trouva en train de pénétrer dans un ascenseur. « Excusez-moi, mais êtes-vous employé de la maison ?» Le vigile avait haussé les sourcils. Molly fit claquer son bubble gum. « Non, » dit-elle en balançant les deux premières phalanges de sa main droite dans le plexus du type. Alors qu'il se pliait en deux, serrant le boîtier d'alerte à sa ceinture, elle le cueillit à la tempe et l'envoya s'aplatir contre la paroi du fond de la cabine. Mâchonnant un rien plus vite à présent, elle effleura les touches « fermeture » et « stop » sur le panneau lumineux. Puis elle sortit une boîte noire de sa poche d'impair et inséra un fil dans le trou de la serrure qui verrouillait la plaque de garde du panneau. Les Panthers modernes attendirent 4 minutes, le temps que leur première action fasse effet, puis injectèrent une seconde dose d'intox soigneusement préparé. Cette fois, ils la balancèrent directement dans le circuit fermé vidéo de l'immeuble Sensorezzo. À 12:04:03, tous les écrans du bâtiment clignotèrent durant 18 secondes sur une fréquence qui provoquait des crises d'épilepsie sur un échantillon sensible du personnel de la boîte. Puis quelque chose qui ne ressemblait que de très loin à un visage humain envahit les écrans. Les traits étirés, le long de saillies osseuses asymétriques, comme quelque obscène projection de Mercator. Les lèvres bleues s'ouvrirent, humides, lorsque remua la mâchoire déformée et tirée. Quelque chose, une main peut-être, un truc comme un amas rougeâtre de racines torses, tâtonna en direction de la caméra, se brouilla, disparut. Rapide succession subliminale d'images de contamination. Graphique du système d'adduction d'eau de la tour. Main gantée, manipulant de la verrerie de laboratoire. Chute d'un objet dans l'obscurité, éclaboussure pâle. La piste sonore, réglée pour défiler juste un poil sous la moitié de la vitesse normale, était un extrait d'un bulletin d'information vieux d'un mois qui détaillait les divers usages potentiels militaires du substance baptisé HSG, un composé biochimique gouvernant le facteur de croissance du squelette humain. Toute surdose de HSG provoquait l'emballement de certaines cellules osseuses, accélérant la croissance d'un facteur 10. À 12:05:00, le cœur caparaçonné de miroirs du consortium Sensorezzo abritait un petit peu plus de 3000 employés. 5 minutes après minuit, au moment où le message des modernes s'achevait dans un éclair de bruit blanc visuel, la pyramide Sensorezzo se mit à hurler. En réaction à la présence possible de bleu neuf dans le système de ventilation de l'édifice, une demi-douzaine d'overcraft tactiques des forces d'intervention de la police de New York convergeaient sur la pyramide Sensorezzo, projecteur anti-émeute plein feu. Un hélicoptère d'intervention rapide de l'AMAB venait de décoller de son terrain côté Ricoeur. Case lança son second programme. Un virus méticuleusement mis au point attaqua la trame des codes écrans des commandes de base qui géraient la sécurité du sous-sol, abritant les matériels de recherche de Sensorezzo. Boston, lança la voix de Molly sur la liaison. Je suis en bas. Case bascula pour découvrir la paroi lisse de l'ascenseur. Elle dézippait son futal blanc. Un gros paquet, exactement de la teinte de sa cheville pâle, y était fixé au micropore. Elle s'agenouilla pour décoller le sparadrap. Des étincelles, couleur bordeaux, parcoururent le polycarbonate mimétique lorsqu'elle déplia le collant de moderne. Elle ôta l'imper rose, le rejeta à côté du pantalon blanc et commença à faire glisser le costume par-dessus son corsage de filet blanc. 12:06:26. Le virus de Case avait percé une fenêtre dans la glace de protection de la commande de librairie. Il se coula à l'intérieur pour découvrir une infinité d'espaces bleus remplis de sphères aux couleurs codées, tendues sur une fille grille de néon bleu pâle. Dans le non-espace de la matrice, l'intérieur de tout édifice de données possédait une dimension subjective illimitée. Pénétrée via le Sendai de Case, la calculette jouet d'un gosse aurait ainsi présenté d'infinis golfes de néant retenu par quelques commandes de base. Case se mit à introduire au clavier la séquence que le Finnois avait achetée à un Sarah Riemann de moyen échelon, affligé d'un sévère problème de drogue. Il se mit à glisser à travers les sphères comme sur des rails invisibles. Là, celle-ci. Se coulant dans la sphère, voûte de néon bleu glacé au-dessus de lui, sans étoiles et lisse comme du verre givré, il lança un sous-programme qui effectuait certaines altérations dans le cœur des commandes de protection. Et maintenant, tu files. Marche arrière en douceur. Le virus qui recoule la trame de la fenêtre. Terminé. Dans le hall de Senso Réseau, deux Panthers modernes tapis aux aguets derrière un bac à fleurs rectangulaire étaient en train de filmer l'émeute avec une caméra vidéo. Ils portaient l'un et l'autre un collant caméléon. Les forces tactiques sont en train de bomber de la mousse à barricade, nota l'un d'eux, à l'adresse de son laryngophone. Les rapides essayent toujours de poser leur hélico. Case fit jouer l'inter du Simsteam et bascula dans une agonie d'os brisé. Molly était collée contre le mur gris et lisse d'un long corridor, souffle rauque, irrégulier. Case avait aussitôt réintégré la matrice, trait de douleur chauffé à blanc, qui s'éteignait dans la cuisse gauche. « Qu'est-ce qui se passe ? Couvé ?» demanda le relais. « Je sais pas, Cutter. Mercha ne parle plus. Attends. » Le programme de Case tournait toujours. Un trait de néon cramoisi, fin comme un cheveu, s'étira depuis le centre de la fenêtre reconstituée en direction du contour fluctuant du brise-glace. Il ne perdit pas de temps à attendre. Respirant d'un bon coup, il bascula de nouveau. Molly hasarda un pas, en essayant de faire porter son poids contre le mur du corridor. Dans le loft, Case gémit. Le second pas la fit enjamber un bras étendu. Manche d'uniforme luisante de sang frais. Vision fugitive d'un bouclier en fibre de verre fendue. Sa vue semblait s'être réduite à un étroit tunnel. Au troisième pas, Case poussa un hurlement et se retrouva catapulté dans la matrice. « Couvé ? Boston, mon chou !» Elle avait la voix tendue par la douleur. Elle toussa. « Léger problème avec les autochtones. Je crois bien que l'un d'eux m'a brisé la jambe. « Qu'est-ce qu'il te faut pour l'instant, Mercha ?» La voix du relais était indistincte, presque noyée dans les parasites. Case se força à réintégrer. Elle était appuyée contre le mur, tout son poids reporté sur la jambe droite. Elle fouina dans la poche ventrale du collant pour en retirer une feuille de plastique constellée d'un arc-en-ciel de dermadisque. Elle en choisit trois et les pressa fortement contre son poignet gauche sur les veines. 6000 microgrammes d'endorphine de synthèse déboulèrent sur la douleur comme un marteau la pulvérisant. Son dos s'arqua dans un spasme convulsif. Des ondes roses de chaleur vinrent lui lécher les cuisses. Elle soupira et se relaxa lentement. « Ok, couvé, c'est bon maintenant. Mais j'aurai besoin d'une équipe médicale quand je sortirai, préviens mes gars. Cutter, je suis à 2 minutes de la cible. Tu peux tenir ? » « Dis-lui que je suis toujours branché et que je tiens, » dit Case. Molly se mit à descendre le couloir en boitant. La seule fois où elle se retourna, Case vit les corps tout fripés de 3 vigiles de Senso Réseau. L'un d'eux semblait n'avoir plus Dieu. Les tactiques et les rapides ont bouclé le rez-de-chaussée, Mercha. Barricade d'expansée. Ça commence à chauffer au premier. En bas, c'est pas mal non plus, dit-elle en ouvrant d'un coup d'épaule une double porte d'acier grise. J'y suis presque, Cutter. Case bascula dans la matrice, puis retira de son front l'étrode. Il était trempé de sueur. Il s'essuya avec une serviette éponge, but une gorgée de flotte au bidon de vélo posé près de l'Osaka, puis vérifia le plan de la librairie affiché sur l'écran. Un curseur rouge se traînait à travers le contour d'une porte. À quelques millimètres seulement, du point vert indiquant la position du construct de Dixie le très plat, il se demanda ce que ça pouvait faire à sa jambe de marcher de cette manière. Avec une dose suffisante d'endorphine de synthèse, elle aurait été capable d'avancer sur une paire de moignons sanguinolents. Il resserra le harnais de nylon qui le maintenait sur la chaise et replaça les trodes. De la routine à présent. Trode, branche, saute. La librairie de recherche de Senso Réseau était une zone de stockage inerte. On avait dû en dégager les matériaux entreposés avant qu'ils puissent être interfacés. Molly sautillait entre des rangées de casiers gris identiques. « Dis-lui encore 5 et 10 sur sa gauche. Couvé, » dit Caise. « Encore 5 et 10 sur ta gauche, Mercha, » répéta le relais. Elle prit sur la gauche. Un archiviste, visage livide, se planquait entre deux casiers, joue moite, œil vide. Molly l'ignora. Caise se demanda ce que les modernes avaient pu faire pour provoquer un tel niveau de terreur. Il savait que c'était en rapport avec une menace bidon, mais il était trop branché sur sa glace pour suivre les explications de Molly. « Tu y es, » dit Caise, mais elle s'était déjà immobilisée devant le classeur qui abritait le construct. Les contours du meuble rappelaient à Caise la librairie néo-aztèque dans l'antichambre de Julie Dean à Chiba. « Vas-y, cutter, » dit Molly. Caise bascula en cyberspace et envoya un ordre qui partit en palpitant le long du fil cramoisi qui perçait la glace des archives. 5 systèmes d'alarme séparés furent convaincus d'être encore efficaces. Les 3 verrous compliqués se désactivèrent tout en continuant à se considérer comme toujours verrouillés. La banque centrale de la librairie souffrit d'une infime modification dans sa mémoire permanente. Le construct en a été retiré par ordre de la direction un mois auparavant. S'il avait voulu vérifier l'autorisation pour retirer le dit construct, un archiviste aurait trouvé les renseignements effacés. La porte s'ouvrit en pivotant sur ses gonds silencieux. « 0, 4, 6, 7, 8, 3, 9 !» dit Caise. Molly fit glisser du rack une unité de stockage noire. Elle ressemblait au chargeur d'un fusil d'assaut de gros calibre et sa surface était couverte d'inscriptions d'avertissement et de consignes de sécurité. Molly referma la porte du coffre. Caise se dégagea. Il retira la ligne qui traversait la glace des archives. Elle réintégra aussitôt son programme, déclenchant automatiquement le déroulement inversé de tout le processus. Les portes du Senso Réseau passèrent à toute vitesse, tandis qu'il se retirait à reculons, que les sous-programmes réintégraient le cœur du brise-glace, sitôt qu'il franchissait les portes où il les avait préalablement postées. « Sorti, couvé, » annonça-t-il, avant de se laisser tomber dans son fauteuil. Après la concentration d'une passe en temps réel, il pouvait rester connecté tout en gardant conscience de son propre corps. Il faudrait à Senso Réseau des jours pour découvrir le vol du construct. La clé en serait la dérivation du transfert de données en provenance de Los Angeles, qui coïncidait un peu trop nettement avec le raid de terreur lancé par les modernes. Il doutait que les 3 vigiles qu'avait rencontrés Molly dans le corridor survivent pour en parler. Il bascula. L'ascenseur, avec la boîte noire de Molly collée à côté du tableau de commande, était resté où elle l'avait quitté. Le garde gisait toujours roulé en boule à terre. Caise remarqua pour la première fois le derme contre son cou. Un cadeau de Molly pour le maintenir à carreau. Elle l'enjamba, récupéra la boîte noire et pressa le bouton rez-de-chaussée. Au moment où s'ouvraient en sifflant les portes de l'ascenseur, une femme fut projetée de la foule à reculons dans la cabine et vint donner du crâne contre la paroi du fond. Molly l'ignora, penchée pour décoller le derme du cou du vigile. Puis elle lança un père rose et pantalon blanc par la porte qu'elle fit suivre des lunettes noires avant de rabattre sur son front la capuche de son costume. Le construct, dans la poche ventrale du collant, s'enfonçait dans son sternum à chacun de ses mouvements. Elle sortit. Caise avait déjà assisté à des scènes de panique, mais jamais encore dans un lieu clos. Les employés du Senso Réseau, déversés par les batteries d'ascenseur, s'étaient rués vers les portes donnant sur la rue pour se trouver nez à nez avec les barricades d'expansés des tactiques et avec les fusils à balles de sable des rapides de la MAB. Convaincus qu'ils étaient en train de contenir une horde de tueurs potentiels, les deux services de police coopéraient avec un rare degré d'efficacité. Derrière les vitres brisées des portes de sortie, les corps s'empilaient en triple épaisseur sur les barricades. Le claquement sourd des fusils anti-émeute fournissait un arrière-plan sonore continu au bruit de la foule qui se ruait de tous côtés sur le sol de marbre du hall. Keyes n'avait jamais entendu un pareil bruit, ni apparemment Molly. « Seigneur !» fit-elle, et elle hésita. C'était une espèce de plainte aiguë qui montait vers un bouillonnement de terreur brute totale. Le sol du hall était jonché de corps, de vêtements, de sang et de longs rouleaux jaunes de listings piétinés. « Allez, poulet, on se tire !» Les yeux de deux modernes la fixaient, perdus au milieu d'un tourbillon de polycarbonate, leur collant mimétique incapable de suivre la confusion de formes et de couleurs qui faisait rage derrière eux. « T'es blessé ? Allez, viens, Tommy va t'aider à marcher. » Tommy tendit quelque chose à celui qui parlait, une caméra vidéo dans sa coque de polycarbonate. « Chicago, fit-elle, je repars. » Puis elle se mit à tomber, non pas sur le sol de marbre, gluant de sang et de vomissures, mais au fond de quelques puits tièdes comme le sang, dans le silence et l'obscurité. Le chef des panthères modernes, qui s'était présenté sous le nom de Lupus Yonder Boy, portait un costume de polycarbonate équipé d'un dispositif d'enregistrement qui permettait de reproduire à volonté l'arrière-plan. Perché sur le bureau de Keyes, comme quelques gargouilles dernière mode, il considérait Armitage et Keyes en souriant. Il avait les cheveux roses. Une forêt multicolore de micro-gicielles se hérissait derrière son oreille gauche. Celle-ci était pointue, garnie de touffes de poils roses. Ses pupilles avaient été modifiées pour réagir à la lumière comme celle d'un chat. Keyes regardait couleur et texture ramper sur le costume. « Vous avez laissé la situation vous échapper, » dit Armitage. Il se tenait au centre du loft, telle une statue, drapé dans les plis sombres et luisants d'un trench coat d'allure luxueuse. « Le chaos, monsieur, qui ?» dit Lupus Yonder Boy. « C'est notre mode, notre méthode, notre truc de base. Votre nana est au courant. C'est avec elle qu'on traite. Pas avec vous, monsieur qui ?» Son costume avait adopté un étrange motif anguleux, alternant le beige et l'avocat pâle. Elle avait besoin de soins médicaux. « Elle est avec ses toubibs. On va s'occuper d'elle, tout baigne. » Il sourit à nouveau. « Payez-le, » dit Keyes. Armitage le fusilla du regard. « On n'a pas la marchandise. »« Votre fille, là. Payez-le. » Armitage avança d'un pas raide jusqu'à la table et sortit des poches de son trench coat trois grosses liasses de nouveaux yens. « Vous voulez compter ? » demanda-t-il à Yonder Boy. « Non. » dit le panthère moderne. « Vous paierez. Vous êtes un monsieur qui... Vous payez pour rester entier. Pas un monsieur non. » « J'espère que ce n'est pas une menace, » dit Armitage. « C'est le business, » dit Yonder Boy, en fourrant les billets dans l'unique poche ventrale de son costume. Le téléphone sonna. Keyes répondit. « Molly, » dit-il à Armitage, en lui tendant le combiné. Les géodes de la Conurb scintillaient dans le gris d'aube lorsque Keyes sortit de l'immeuble. Il se sentait les membres froids, déconnectés, impossible de dormir. Il en avait ras-le-bol du loft. Lupus était reparti, idem pour Armitage. Et Molly était dans un service de chirurgie quelque part. Vibration sous son pied au passage d'une rame. Doppler des sirènes dans le lointain. Il tournait au hasard des coins de rue, le col relevé, engoncé dans une veste de cuir neuve, balançant dans le caniveau le premier mégot d'une chaîne de Ye ou Yuan avant d'en allumer une autre. Il essayait de s'imaginer les sachets de toxines d'Armitage en train de se dissoudre dans son sang, membrane microscopique qui s'amincissait tandis qu'il marchait. Ça ne semblait pas réel. Pas plus que la terreur et l'agonie dont il avait été le témoin à travers le regard de Molly dans le hall d'entrée de Senso Rezo. Il se surprit a tenté de se rappeler les visages des trois personnes qu'il avait tuées à Chiba. Les hommes étaient anonymes. La femme lui rappelait Linda Lee. Une antique camionnette à trois roues, solar sur les vitres, bidon de plastique vide sur le plateau, le doubla en cahotant. « Qu'est-ce ? » Il se jeta sur le côté, se plaquant d'instinct contre un mur. « Message pour toi, Qu'est-ce ? » Le collant de Lupus Yonderboy parcourait le spectre des couleurs primaires. « Scuse, je voulais pas t'affoler. » Qu'est-ce se redressa, main dans les poches du blouson. Il avait une tête de plus que le moderne. « T'aurais intérêt à faire gaffe, Yonderboy. »« C'est le message, muet d'hiver, » dit-il, et il l'épla. « De toi ?» Qu'est-ce avança d'un pas. « Non, » dit Yonderboy, « pour toi. »« De qui ?»« Muet d'hiver, » répéta Yonderboy en hochant la tête, balançant sa crête de cheveux roses. Son collant vira au noir mat, ombre charbonneuse sur le béton crasseux. Le temps d'exécuter une drôle de petite danse en faisant tourbillonner ses minces bras noirs. Il avait disparu. Non, toujours là. Capuchon relevé pour cacher le rose. Le collant de la teinte de gris exact, tacheté, maculé, idem du trottoir sur lequel il se tenait. Les yeux clignèrent en voyant l'éclat d'un feu rouge. Cette fois, il avait vraiment disparu. Qu'est-ce referma les yeux, se massa les paupières du bout de ses doigts gourds, adossé contre la maçonnerie décrépie. À Ninsei, ça avait été sacrément plus simple.